Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va se déchirer sur Rock'n'Roll de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard et beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle. Et avec moi dans la fosse, j'ai Amandine Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Et Hugo Alexandre.
Bonjour Daniel.
Le César est attribué à Guillaume Canet.
Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc...
Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés.
Salut mon pitou.
Je comprends pas trop comment vous voyez, là, vous vous trompez.
Hein. Allez, bonne nuit, mon amour.
Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus. Je la baise, moi, ma femme.
C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain.
Un jour, Guillaume Canet se rend compte qu'il est vieux. Enfin, il a 43 ans. Et quoi de plus naturel pour se sentir vieux que d'essayer de se rajeunir. Et c'est un peu tout le thème de ce film. Alors, est-ce que tu penses que cette comédie fonctionne, Amandine?
J'ai un peu envie de te faire une réponse en deux parties, parce que clairement, il y a deux parties dans ce film. C'est un peu deux films pour le prix d'un. Donc, j'ai plutôt bien aimé la première partie. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, encore un mec qui filme sa crise de la quarantaine, en plus un acteur, il a vraiment les chevilles qui enflent, au secours. En le regardant, c'est plutôt pas mal, parce que Guillaume Canet fait preuve de beaucoup d'autodérision. Il s'auto-parodie, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le rôle de Marion Cotillard est assez drôle. Il la parodie totalement dans son rôle de femme à récompense, quoi, à Oscar. Et par contre, le film subit un grand changement en cours de route. Et là, ça m'a laissé totalement perplexe.
Il y a un méga twist. Et toi, alors, jusqu'avant le twist, alors?
Moi, j'ai l'analyse un peu contraire de ça, c'est-à-dire que...
Allez, vas-y, lance-toi.
En fait, Guillaume Canet veut parler de sa crise de la quarantaine, du fait que son couple s'érode. Alors, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qu'il raconte. Mais je trouve que, en fait, le fait que ce soit Guillaume Canet est pas très important dans l'histoire, et ça pourrait être n'importe quel acteur qui est en crise de la quarantaine. Et, Le problème avec ce genre de film où les acteurs jouent leur propre rôle, c'est qu'il faut qu'ils soient capables de manipuler leur propre image, et souvent ce n'est pas eux-mêmes qui se mettent en scène. Donc par exemple, il y a JCVD c'est pas du tout Jean-Claude Van Damme qui met en scène le film, ou je pense à l'enlèvement de Michel Houellebecq aussi, où bon, c'est pas un acteur mais c'est un peu différent.
Et il a joué à la comédie aussi.
Ouais. Et c'est très très bien l'enlèvement de Michel Houellebecq, je conseille à tous les gens qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, je trouve que Guillaume Canet a pas suffisamment de recul sur lui-même, et du coup, il a tendance à un peu se répéter et un peu faire les mêmes blagues. Par exemple, il y a Marion Cotillard, donc qui va tourner avec Dolan, donc elle répète un rôle en québécois, donc elle passe à la moitié du film à parler en québécois. Donc c'est drôle 5 minutes, mais le problème c'est qu'elle le fait quasiment tout le temps, et donc du coup voilà. Et Canet arrive pas trop à faire quelque chose de lui-même. Et je trouve qu'à la moitié du film, il trouve une idée qui fait qu'il y a une sorte de bascule, et il va très 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 loin dans son idée, et le film bascule vraiment dans une sorte de folie, dans un truc totalement inattendu, qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait entrevu dans Mon Idole, son premier film, qui était un film un peu fou. C'est le Guillaume Canet que je préfère, qui veut pas nécessairement parler de lui, mais qui a une psyché un peu de malade mentale, en fait.
Alors, est-ce que c'est pas du coup une double arnaque, puisque le film nous est clairement vendu comme un autoportrait d'un artiste loser qui se fait toucher la testicule,
Et genre vraiment, c'est un classique en fait, tu vois, de la comédie autoportrait, c'est-à-dire vraiment il faut se mettre à mal devant.
C'est ça. En fait, il y a quelques scènes.
C'est super vaniteux, quoi.
Il y a quelques scènes où il y a des scènes où il parle des Césars et tout. Et effectivement, il y a des petites blagues qui sont assez marrantes et on sent qu'il y a un peu de vécu. Et notamment, il réutilise des images des Césars où il fait lui-même la gueule parce que c'est Pierre Ninet qui a eu le César et on sent que c'est quelque chose de personnel. Et le fait que ce soit vaniteux me dérange pas tellement tant que c'est drôle, mais le problème c'est que je trouve que ça parle assez peu de lui finalement, et c'est un peu il tient des propos bateaux sur quelqu'un qui vieillit finalement, et du coup le fait que ce soit lui, c'est pas très très intéressant, quoi.
Ben, vous savez quoi, en fait c'est le paradoxe, c'est que la meilleure analyse du film, elle est aussi une vanne du film. C'est un moment, Yvan Attal, il lui dit, mais en fait tu devrais faire un film sur ta femme, en fait, sur Marion Cotillard. Et moi je trouve vraiment que Marion Cotillard, par contre, elle fonctionne à plein tube en fait dans le film. Ouais, c'est vrai que c'est long,
effectivement cette scène avec Yvan Attal est assez intéressante, et je trouve que elle dit vraiment quelque chose.
Ça fait en plus une citation du film de Attal, c'est vraiment très méta, quoi.
C'est là du méta, ouais.
Ouais, c'est assez vertigineux, et du coup Attal dit oui, mais ma femme est une actrice, c'est pas vraiment sur moi et tout, et il y a une réflexion.
Et moi j'étais coupe-tif ou je sais pas quoi.
Et c'est le moment où on sort un peu de la comédie et où on tient quelque chose de vrai, mais le boulot de Guillaume Canet aurait été d'en faire quelque chose de drôle, et finalement j'ai l'impression qu'il n'arrive pas trop à en faire de la comédie, quoi, de son propre matériau.
Et effectivement, je trouve que l'ironie, c'est que Marion Cotillard est plus... on approche quelque chose de plus vrai pour Marion Cotillard que pour Guillaume Canet, quoi. Parce que Guillaume Canet a une image tellement lisse qu'en fait, forcer le trait d'un mec déjà lisse dans l'opinion publique, ça marche pas trop. On n'en sait pas beaucoup plus sur Guillaume Canet à la fin. C'est pour ça que ça passe. C'est parce qu'il se ridiculise, il essaye d'être rock, il sort, il boit, il se drogue, et en fait, il finit à se vomir dessus. Moi, c'est des choses qui me font rire.
Il y a en plus une scène où vraiment, genre, qui montre à quel point il est à côté de la plaque, mais peut-être que c'est volonté comique, c'est qu'il est pas assez rock'n'roll, alors du coup il va voir Johnny qui est... Johnny, c'est pas... alors c'est opinion personnelle, c'est pas l'incarnation du rock, c'est de la variété de très haut de gamme, mais c'est pas...
J'ai adoré cette scène avec Johnny, en fait, et je trouve que ça marque pile le pivot vers la seconde partie du film.
Oui, c'est à ce moment-là que ça bascule, ouais.
Mais non, mais je trouve
à partir du moment où Johnny dit bon, il fait froid, je vais allumer le feu, quoi.
Oui, alors la vanne est pas très bonne, mais c'est Johnny, et en fait t'as l'impression que ce chanteur, tu peux lui faire n'importe quoi, et il a tellement de charisme et de présence, et les Français projettent tellement de choses sur lui que ça passe. Et je trouve qu'il y a une mini-scène excellente là-dedans, c'est quand Guillaume Canet voit arriver Johnny dans son appartement, et en fait pendant quelques secondes, il l'imagine sur scène avec des stroboscopes, de la musique, parce que c'est Johnny, quoi, et que c'est toujours une apparition. Et ça, je pense que ça traduit un peu ce que tous les Français pensent de Johnny, et c'est plutôt bien vu.
Et Johnny qui est capable que de jouer de son propre rôle, en fait. Oui, littéralement.
Moi je trouve aussi que cette scène avec Johnny est très réussie, justement parce que Guillaume Canet a le recul suffisant pour Johnny pour en tirer de la comédie. Et dans la même scène, juste après, donc il y a Johnny qui est en haut de sa mezzanine là, et donc qui descend pour retrouver Guillaume Canet. Il se pète la gueule dans l'escalier, et la chute dure au moins 10 secondes, et après il se lève comme ça d'un coup, comme s'il s'était passé en rock'n'roll.
Il a 75 ans, pour le
force admiration.
Ouais, et normalement là c'est plutôt là,
et après il y a les plutôt là qui dit non mais il
colle du fémur, bim.
Il arrête pas de faire ça. Et du coup, c'est en fait, il arrive vraiment à tirer quelque chose de Johnny parce que voilà, il a le recul nécessaire. Et c'est effectivement la bascule vers la seconde partie du film où finalement Guillaume Canet parle beaucoup moins de lui-même, mais il trouve un angle pour traiter sa crise de la quarantaine, et un angle qui va tirer jusqu'à la nausée, quoi.
Pour finir sur Johnny, je me demande si Guillaume Canet, il a pas un des goûts un peu kitsch, quoi, parce qu'il nous colle du Céline Dion, du Johnny, du Demis Roussos.
Ah oui, il y a plein de scènes musicales totalement aléatoires que j'ai pas très bien compris.
Ouais, y a une
on n'a pas spoilé encore le twist, mais ouais, ça va venir. Mais c'est vrai que Demis Roussos a un rôle clé, en fait, et il l'utilise de la même manière que le final de Podium, quoi, et c'est presque paresseux. Et avant qu'on passe un peu à spoiler ce magnifique film, il y a quand même un truc, c'est que les blagues pour moi sont très très évidentes tout le temps, c'est tout le temps vraiment le moindre gag. Et quand je dis bah il y a une scène de baise, et puis alors quick quick quick, et le lit il se casse la gueule, c'est toujours des blagues très très terre à terre. Quand il y a une musique, c'est de la musique parodique très évidente, quoi. C'est pas du très haut de gamme, en fait. Je pense que ça manque vraiment vraiment d'écriture. Ça fait illusion au début, les 5 premières minutes, quand il est vraiment... Je trouve que vraiment les scènes avec Philippe Lefebvre, où c'est un film dans le film, et Canet joue un rôle chiant dans un film français chiant typique, c'est ça, c'est ses propres mots, et je trouve que ça fonctionnait bien, et en fait il n'y a pas assez de matos, et c'est pour ça que ensuite ça va basculer.
Ouais, et ouais. Genre généralement quand on sent le manque d'inspiration dans une comédie au nombre de scènes musicales qu'il y a dans le film, et effectivement dès qu'il peut il va aller jouer de la guitare devant des enfants de manière totalement aléatoire alors qu'ils rentrent de cuite.
C'est vrai que c'est
pas très compréhensible d'ailleurs.
Voilà,
très lisible.
Il y a quand même la scène de Céline Dion qui tombe comme un cheveu sur la soupe. On sait pas pourquoi Marion Cotillard se met à faire une parodie de Céline Dion en chantant Pour que tu m'aimes encore. En plus, ça dure super longtemps.
C'est peut-être une référence à Lambert Wilson sur la piste du Marsupilami, mais c'est une hypothèse. C'est okay. Un truc qui venait de nulle part aussi, mais qui était plutôt réussi parce que c'était Lambert Wilson. Qui était déguisée en Céline Dion, qui se mettait à chanter je ne sais plus quoi.
Mais je crois que c'est pour dire qu'elle se met à fond dans son rôle de Canadienne, non, c'est ça?
Je sais
pas. Parce qu'elle va tourner pour Dolan.
Il y a beaucoup de choses où on se dit qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire mindfucker par ce film. Un petit extrait.
Je fais un drôle de vénère, tu vois, un peu de physique. Ça
va, ça va. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi.
Ah ouais.
Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut,
c'est au revoir.
Petit connard.
Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent.
Tu l'as connu, toi, Saint Laurent ?
Pas plus que ça.
On va fermer ta gueule, alors.
Alors maintenant, on vous prévient, on va parler de la fin du film. On va dévoiler le gros twist. Donc, mettez en pause, allez voir le film si ça vous tente et venez nous réécouter après. Ou alors, si vous en avez rien à foutre du film, vous pouvez nous écouter jusqu'au bout. Alors donc, il y a un basculement dans ce film. Je vais dire un bon tiers, en fait, où tout d'un coup, Guillaume Canet se rend compte que il devient trop vieux et il n'y a qu'une seule solution à ça. C'est la même que les frères Bogdanov. C'est la chirurgie esthétique qui va littéralement... Je me suis demandé, est-ce que c'est que du maquillage ou est-ce que c'est de l'image de synthèse?
C'est pas aussi radical que ça. Au départ, il fait juste un petit truc de botox et il se rend compte que tout le monde lui dit, putain, t'as une mine exceptionnelle, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, non, j'ai juste fait j'ai changé un peu mon maquillage et tout. Et en fait, petit à petit, Guillaume Canet va sombrer dans la folie en même temps que son film. Et tout le monde va le lâcher, y compris Marion Cotillard. Et en fait, il va se mettre à faire de la musculation, à devenir un véritable monstre. Et c'est, je trouve que il fait preuve là d'une liberté qui est hyper rafraîchissante quand on avait vu la première heure du film où il
est pas d'accord.
Il enchaîne les anecdotes et les banalités. Et là, il fait vraiment un suicide cinématographique.
Ah oui, alors si
de manière flamboyante.
Si tu parles en termes de suicide artistique, oui, il y a clairement, il est parti en roue libre et il s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut déconner. Et donc toi, Amandine, ça t'a pas plu du tout.
J'étais pas prête, clairement. Donc il mute en Bogdanov en plus avec un look à la Michael Vendetta. Je comprends pas pourquoi il doit aussi changer de look. Et en fait, j'ai pas compris ce qui arrivait. Ça sombre dans l'absurde, en fait. On sait plus si on est dans un film de Quentin Dupieux ou qu'est-ce qu'on est censé comprendre.
C'est ça qui est bien.
Peut-être. Mais je sais pas s'il y a une sorte d'autodestruction dans cette démarche, mais je vois pas trop ce qu'il a voulu nous dire, en fait.
Non, ouais. Je pense que tu dis que t'es pas préparé, mais je pense que le monde n'est pas préparé à voir ça. Enfin,
le monde n'est pas prêt.
Et justement, le thème du film, c'est Guillaume Canet est trop lisse. Et là... par ce suicide cinématographique, il prouve qu'il est rock'n'roll, entre guillemets. En tout cas, qu'il n'est pas lisse et qu'il est fou, en fait.
Tu ne peux pas lui enlever que c'est audacieux, ouais, c'est sûr.
C'est ça. Et en fait, je pense que c'est le genre de film
c'est audacieux.
Qui peut devenir culte dans 20 ans, c'est-à-dire on
reverra ça comme... Non, arrête, Hugo. Je vais répéter ton nom à l'antenne pour que les gens s'en souviennent dans 20 ans.
Mais
tu peux pas dire ça.
Moi, quand j'ai vu Steak pour la première fois, ou quand j'ai vu La Personne ou Deux Personnes pour la première fois, j'ai pas aimé. Je suis sorti de la salle en me disant, mais j'étais pas du tout préparé à ça.
Personne, t'avais déjà d'autres éléments qui pouvaient te faire apprécier le film. T'avais, par exemple, l'esthétique qui était assez incroyable. Alors que là, vu que le film est pas mal, mais pas non plus exceptionnel. Tu dis, mais qu'est-ce qui rattrape
c'est
ça?
C'est pas digne d'un Edouard Baird. Enfin, je veux dire, en termes de ego trip, en termes de proposition sur ton propre univers.
À quoi bon, c'était pareil. On sortait d'à quoi bon en se disant, mais qu'est-ce qui
Mais à quoi bon, il s'est suicidé, oui, mais au bout de 20 minutes.
Peut-être qu'à quoi bon, ça deviendra un film. intéressant à voir dans les ciné-clubs ou je sais pas.
Mais, c'est un investissement, quoi.
Ouais, ou je pense à Atomic Circus aussi, un film avec Poulvord des frères Poirot, où au milieu du film, c'était une comédie un peu ratée, qui se transforme en film d'invasion extraterrestre, et c'est, tu ressors de là en te disant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et finalement, en réfléchissant au film, j'ai pas revu depuis, mais peut-être que c'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Et dans le cas de Guillaume Canet, je pense qu'il est vraiment obsédé par la jeunesse. Et effectivement, si ça se traduit comme ça, en fait, ça dit beaucoup sur qui est Guillaume Canet. Et c'était ça le cahier des charges du film, finalement. C'est,
je sais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il soit sérieux parce qu'à la fin, il faut juste un peu raconter, quoi. Et puisqu'on est là à spoiler, c'est que il va jouer dans une sitcom à Miami, un truc absurde, une espèce de Crocodile Rider, et c'est presque rigolo là à ce moment-là puisque ça va très loin. Il y a une parodie de la musique de Magnum et le crocodile lui porte son casse-croûte et il fait du surf sur un croco. C'est absurde. Et ouais, genre ça a plus. Je sais pas si ça me parle de.
En fait, je dirais qu'il fouille la thématique de la destruction qui est présente dans tout son cinéma depuis le début. C'est-à-dire dans mon idole,
ouais.
Il dépeint un monde de débauche, du showbiz. Il y a un espèce d'animateur qui meurt au milieu du film et du coup ils vont cacher le corps et tout. Là, je vais peut-être un peu loin dans l'exégèse. Dans les petits mouchoirs, il y a une espèce de destruction du groupe et tout.
Bah,
et
écoute, là, tu pas si bien
fait,
dire,
c'est
en fait.
Fou Guillaume Canet, il faut le dire.
Oui, mais en fait, ça se termine sur un happy end. Donc, on n'est pas dans la destruction totale.
Et alors,
donc,
happy end hyper malaisant, quand même.
Bah, je sais pas, on superpose donc cette destruction physique à l'histoire d'amour qui se finit bien. Et je vois pas non plus pourquoi Marion Cotillard doit venir le courtiser à la fin.
Elle se finit bien, mais de manière monstrueuse. Et il nous renvoie à nos propres démons.
Alors tu à mon avis tu vas chercher trop loin. Il y a un truc, c'est que je pense, et très sincèrement, que c'est que les petits mouchoirs c'est le ying et que ce film là c'est le yang. C'est vraiment deux et même message. C'est à chaque fois, c'est je vous montre une facette de ma personnalité. Il l'avait dit dans les interviews des petits mouchoirs que je me suis coltiné. Il dit ouais, tous les personnages en fait ils reflètent un peu. Il y en a un qui est déconneur, il y en a un qui est triste, il y en a un qui est... et genre à chaque fois il parle de lui-même en fait dans les petits mouchoirs, tous les personnages en fait c'est lui. Et bon, pas évidemment mais je déteste les petits mouchoirs et celui-là est clairement moins, c'est moins pire, quoi. C'est au moins ça reste une comédie, mais ça reste quand même le yank de tout ça, c'est qu'il a besoin de parler de lui et tout ça se renvoie même dans mon idole et ce mec a un gros besoin de parler de lui. Et après tout, tu vois, moi, je suis fan de Woody Allen et Woody Allen, il fait presque que parler de lui un film sur deux et il a pas le truc en écriture.
Ouais, tu parlais d'Edouard Baird tout à l'heure. Il y a quelques semaines, il a sorti un film qui parlait énormément de lui sans forcément dire que c'était lui et on en apprenait beaucoup sur Edouard Baird de manière beaucoup moins démonstrative. Mais c'est un autre cinéma, c'est une autre proposition. Après, le problème que j'ai avec le film de Canet, c'est que même si c'est très jusqu'au boutiste et au moins on peut pas lui reprocher d'aller jusqu'au bout de son idée, c'est quand même pas très très drôle, quoi. Enfin, c'est présenté comme une comédie et on rit pas beaucoup, que ce soit un peu dans la deuxième partie.
Toi, tu trouvais donc c'est déprimant, toi, alors, carrément.
Déprimant, non, pas forcément déprimant, mais c'est juste que ça m'a laissé.
C'est une tragédie, hein, presque.
Mais c'est vrai que ça fait un peu drame dans la deuxième partie parce que toutes ces séquences où il s'entraîne pour se muscler, où il ingère des vitamines et tout ça, c'est pas très drôle en soi. Donc on assiste à ça sans savoir ce qui se passe. On se dit, mais voilà, est-ce que le film sombre vers le drame? Et effectivement, cette dernière scène avec la sitcom, avec le crocodile, bon, c'est quand même burlesque. Donc c'est un film comique. Mais il y a un vrai changement de ton, ouais. Et moi, ça me dérange pas qu'un artiste parle de lui, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un message. Et là, je vois pas quel est le message. Et donc, du coup,
je vais te le dire. C'est exactement comme dans Les Petits Mouchoirs. C'est que c'est une belle personne et elle retombe amoureuse de lui.
Mais
c'est ça le message.
Mais on comprend pas pourquoi.
Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça le message.
Parce qu'il est trop bien malgré son apparence
de monstre. Le message, c'est peut-être No Future, quoi. C'est voilà, on fait n'importe quoi et c'est.
Mais non, en plus, on peut pas interpréter ça comme elle va au-delà de la beauté intérieure, puisque on la voit craquer sur ses muscles et être en fait très séduite physiquement par le nouveau physique de Guillaume Canet. Ouais, donc non, elle est totalement bizarre. Superficielle du début à la fin, cette Marion Cotillard.
Ah. Je pense qu'il est trop tôt, c'est de l'avant-garde, on n'est pas préparé.
Mais attends, de l'avant-garde, il y a plein de films sur les égos des comédiens. Enfin, je veux dire, Being John Malkovich me fait hurler de rire, tu vois. Enfin, il y en a plein. Je pense à Grosse Fatigue, tu vois. Grosse Fatigue.
C'est Michel Blanc qui l'a fait. Alors, par exemple, c'est lui qui l'a écrit, je crois. C'est co-écrit avec Bertrand Blier, ouais. Alors c'est Bertrand Blier tout ça.
Qui lui a donné l'idée, je crois, de...
Ouais. Et c'est l'un des rares exemples où quelqu'un parle de lui-même. Après, c'est un Michel Blanc un peu fantasmé. Je suis pas sûr que ce soit vraiment Michel Blanc et qu'il dit pas grand-chose de lui, mais je pense que ça l'amusait de manipuler son image et l'image des acteurs du Splendide.
C'est Michel Blanc qui se fait remplacer par un clone, un mec qui lui ressemble énormément. Et il y a une scène hilarante où Michel Blanc, donc qui est remplacé par son clone, il est littéralement à l'abandon. Il rencontre Philippe Noiret, le vrai Philippe Noiret, et lui apprend que le Philippe Noiret qui existe en fait, c'est pas le vrai en fait. Il a été remplacé aussi par un sosie. Et ouais, là il y avait un vrai propos quoi. Il y avait une vraie écriture. Enfin, il y avait quelque chose, quoi.
Il y avait un angle, quoi. Il y avait une idée, et moi, c'est ce que je cherche dans le film de Canet pendant une heure, et après, il trouve un angle qui est l'angle qu'il a choisi, qui est ce qu'il est. Après,
c'est ça, il est mal exploité quand même.
Oui, c'est ça le truc, c'est que.
Une fois qu'il a trouvé cette idée, il n'y a rien d'écrit, quoi.
Mais en fait.
On doit juste assister à sa descente vers la destruction physique.
Par rapport au début du film, que je trouve vraiment très tiède et qui m'intéresse pas du tout et qui m'ennuie beaucoup, je trouve que au moins il a le courage d'aller au bout d'un truc délirant et que.
Bah toi tu le vois comme ça, moi je le vois comme je suis arrivée au bout de mon idée, je sais plus quoi dire, donc je vais tenter un truc de ma boule.
C'est le moment de mettre la thune sur la table. Combien tu donnes, Hugo?
Bon, comme je disais, j'ai pas beaucoup ri et en fait c'est pas très.
Toi, c'est ce que tu aimes, c'est rire, hein, Hugo.
Moi, je le défends théoriquement, mais c'est pas génial. Donc 1 euro pour le geste artistique, mais c'est tout.
D'accord. Et
c'est un peu radin.
Et toi?
Moi, je pense que, comme je disais, moi j'ai aimé que la moitié du film, donc je pense que je vais donner la moitié d'un ticket cinéma, donc 5 euros.
Ah bah c'est presque généreux. Écoutez, moi je reste comme toi, un euro symbolique parce que je trouve tellement j'ai été mindfucké et je trouve ça un peu affligeant en fait. Moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Passons à nos recos. Hugo.
Alors moi je vais vous recommander un film qui exploite très bien le fait que les acteurs jouent leur propre rôle et ça s'appelle Pour cause Les Acteurs de Bertrand Blier qui est sorti en 99 et là pour le coup c'est vraiment une galerie d'acteurs donc en fait c'est assez hétérogène comme film, il y a des scènes très très réussies, des scènes un peu moins réussies mais il arrive à tirer la quintessence de chacun de ses acteurs et la particularité de chacun de ses acteurs, donc je pense notamment à Jean-Pierre Marielle qui est exceptionnel là-dedans, donc c'est un peu le fil rouge du film. C'est Jean-Pierre Marielle, il doute un peu de ses capacités d'acteur et il se rend compte que plus personne ne l'écoute en fait, donc dans la scène d'ouverture, il est dans un restaurant, il demande un petit pot d'eau chaude au serveur et il se rend compte que personne ne l'écoute en fait, et il n'aura jamais son pot d'eau chaude et pendant tout le film il demande son pot d'eau chaude et il l'aura jamais. Et il y a plein de petits gars comme ça, il y a par exemple Pierre Arditi qui se rend compte qu'il est homosexuel et qui sort avec Jean-Claude Brialy mais il l'assume pas trop, donc ça crée un peu des petits problèmes comme ça. Il y a Dussolier qui s'engueule avec Samy Frey au milieu du film et qui quitte le film et donc du coup tout le monde est emmerdé et il y a quelqu'un qui se propose de remplacer Dussolier au pied levé et c'est Josiane Balasko et en fait pendant tout le reste du film tout le monde parle à Josiane Balasko comme si c'était André Dussolier et en fait c'est un film hyper ludique comme ça, donc tout n'est pas réussi.
Tu m'as mieux vendu que mes souvenirs. Je me souviens que le début était pas mal et après ça pataugeait.
La scène d'ouverture est exceptionnelle, voilà, avec Marielle, Villeray, Claude Rich. Donc c'est une belle curiosité aussi à voir, que je conseille, Les Acteurs de Blier.
Et toi Amandine?
Moi je vais recommander la série Don't Trust the Bee. Donc c'est une série d'il y a quelques années qui n'a eu que 2 saisons.
Don't Trust the Beach en fait.
Don't Trust the Beach, ouais. Mais c'est censuré.
Ah d'accord. Et nous, on a le droit de dire ce qu'on veut.
Ok. Et dans cette série, il y a James Van Der Beek, donc qui est connu pour son rôle de Dawson. Et là, il joue son propre rôle, en fait. La série n'y va pas par 4 chemins, en fait. C'est un has-been, puisqu'il joue plus dans grand-chose. Donc la série le prend en compte en disant que, James Van Der Beek, t'es un peu has-been. Mais en fait, il est super imbu de sa personne, comme tout acteur. Il est vachement en confiance, bien qu'il n'ait pas trop de rôle et qu'il fasse que des pubs. Et il va tout le temps se servir de Dawson pour exister, donc notamment pour draguer des filles. Et ça va être « je sors ma chemise en flanelle, je passe le générique de Dawson ». Et en fait, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment assez drôle. Pour le coup, on force vraiment le trait et c'est hilarant.
Et Kristen Ritter est super.
Et Kristen Ritter, près de Jessica Jones, est très bien habillée dans ce... dans cette série.
Et moi, j'avais du mal à choisir pour la une reco parce qu'en fait, il y a plein de films avec des acteurs qui jouent leur propre rôle. Je me souviens de Welcome to Zombieland où Bill Murray joue son propre rôle et c'est hilarant. Je me souviens de This Is the End où Channing Tatum joue le meilleur Channing Tatum de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment super. Mais mon film préféré avec un acteur dans son propre rôle, ça sera à jamais Last Action Hero. Last Action Hero donc de John McTiernan avec Schwarzenegger qui parodie Schwarzenegger et qui parodie aussi le personnage de Schwarzenegger. C'est hilarant. C'est un film qui n'a pas vieilli. C'est un film que tu peux montrer au môme, mais en même temps, qui a tellement de relectures possible. C'est un putain de film. Last Action Hero, j'adore. Merci au très rock'n'roll, le vrai Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, à SoundCloud, etc. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires, si possible positifs, et même d'en parler autour de vous et de nous écouter après votre séance ciné. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie, et je crois que ce « Et si j'étais un homme ?» est, comme dit le général, vaste programme.
Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail ? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du pop-corn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.